Blaise Pascal, Pensée. Chapitre 9. Injustice et corruption de l'homme. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite. Tout son devoir est de penser comme il faut. Et l'ordre de la pensée est de commencer par soi, par son auteur et sa fin. Cependant, à quoi pense-t-on dans le monde? Jamais à cela, mais à se divertir, à devenir riche, à acquérir de la réputation, à se faire roi, sans penser à ce que c'est que d'être roi et d'être homme. La pensée de l'homme est une chose admirable par sa nature. Il fallait qu'elle eût d'étranges défauts pour être méprisable. Mais elle en a de telles que rien n'est plus ridicule. Qu'elle est grande par sa nature, qu'elle est basse par ses défauts. S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui et non les créatures. Le raisonnement des impies dans le livre de la sagesse n'est fondé que sur ce qu'ils se persuadent qu'il n'y a point de Dieu. Cela posé, disent-ils, jouissons donc des créatures. Mais s'ils eussent su qu'il y avait un Dieu, ils eussent conclu tout le contraire. Et c'est la conclusion des sages. Il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures. Donc, tout ce qui nous incite à nous attacher à la créature est mauvais, puisque cela nous empêche ou de servir Dieu si nous le connaissons, ou de le chercher si nous l'ignorons. Or, nous sommes pleins de concupiscence. Donc, nous sommes pleins de mal. Donc, nous devons nous haïr nous-mêmes et tout ce qui nous attache à autre chose qu'à Dieu seul. Quand nous voulons penser à Dieu, combien sentons-nous de choses qui nous en détournent et qui nous tentent de penser ailleurs? Tout cela est mauvais et même né avec nous. Il est faux que nous soyons dignes que les autres nous aiment. Il est injuste que nous le voulions. Si nous naissions raisonnables, et avec quelque connaissance de nous-mêmes et des autres, nous n'aurions point cette inclination. Nous naissons donc injustes, car chacun tend à soi. Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général. Et la pente vers soi est le commencement de tout désordre en guerre, en police, en économie, etc. Si les membres des communautés naturelles et civiles tendent au bien du corps, les communautés elles-mêmes doivent tendre à un autre corps plus général. Quiconque ne hait point en soi cet amour-propre et cet instinct qui le porte à se mettre au-dessus de tout est bien aveugle, puisque rien n'est si opposé à la justice et à la vérité. Car il est faux que nous méritions cela, et il est injuste et impossible d'y arriver, puisque tous demandent la même chose. C'est donc une manifeste injustice où nous sommes nés, dont nous ne pouvons nous défaire et dont il faut nous défaire. Cependant, nulle autre religion que la chrétienne n'a remarqué que ce fût un péché, ni que nous y fussions nés, ni que nous fussions obligés d'y résister, ni n'a pensé à nous en donner les remèdes. Il y a une guerre intestine dans l'homme entre la raison et les passions. Il pourrait jouir de quelque paix s'il n'avait que la raison sans passion, ou s'il n'avait que les passions sans raison. Mais, ayant l'un et l'autre, il ne peut être sans guerre, ne pouvant avoir la paix avec l'un, qu'il ne soit en guerre avec l'autre. Ainsi, il est toujours divisé et contraire à lui-même. Si c'est un aveuglement qui n'est pas naturel de vivre sans chercher ce qu'on est, c'en est encore un bien plus terrible de vivre mal en croyant Dieu. Tous les hommes presque sont dans l'un ou l'autre de ces deux aveuglements. Chapitre 10. Juifs. Dieu voulant faire paraître qu'il pouvait former un peuple saint d'une sainteté invisible et le remplir d'une gloire éternelle, a fait dans les biens de la nature ce qu'il devait faire dans ceux de la grâce, afin qu'on jugeât qu'il pouvait faire des choses invisibles, puisqu'il faisait bien les visibles. Il a donc sauvé son peuple du déluge en la personne de Noé, il l'a fait naître d'Abraham, il l'a racheté d'entre ses ennemis et l'a mis dans le repos. L'objet de Dieu n'était pas de sauver du déluge et de faire naître tout un peuple d'Abraham, simplement pour l'introduire dans une terre abondante. Mais comme la nature est une image de la grâce, aussi ces miracles visibles sont les images des invisibles qu'il voulait faire. Une autre raison pour laquelle il a formé le peuple juif, c'est qu'ayant dessein de priver les siens des biens charnels et périssables, il voulait montrer par tant de miracles que ce n'était pas par impuissance. Ce peuple était plongé dans ses pensées terrestres, que Dieu aimait leur père Abraham, sa chair et ceux qui en sortiraient, et que c'était pour cela qu'il les avait multipliés et distingués de tous les autres peuples sans souffrir qu'ils s'y mêlassent, qu'il les avait retirés de l'Égypte avec tous ces grands signes qu'il fit en leur faveur, qu'il les avait nourris de la manne dans le désert, qu'il les avait menés dans une terre heureuse et abondante, qu'il leur avait donné des rois et un temple bien bâti pour y offrir des bêtes et pour y être purifiés par l'effusion de leur sang, et qu'il leur devait enfin envoyer le Messie pour les rendre maîtres de tout le monde. Les Juifs étaient accoutumés aux grands et éclatants miracles, et n'ayant regardé les grands coups de la mer Rouge et de la terre de Canaan que comme un abrégé des grandes choses de leur Messie, ils attendaient de lui encore des choses plus éclatantes, et dont tout ce qu'avait fait Moïse ne fut que l'échantillon. Ayant donc vieilli dans ses erreurs charnelles, Jésus-Christ est venu dans le temps prédit, mais non pas dans l'éclat attendu, et ainsi ils n'ont pas pensé que ce fut lui. Après sa mort, saint Paul est venu apprendre aux hommes que toutes ces choses étaient arrivées en figure, que le royaume de Dieu n'était pas dans la chair mais dans l'esprit, que les ennemis des hommes n'étaient pas les Babyloniens mais leurs passions, que Dieu ne se plaisait pas au temple fait de la main des hommes mais en un cœur pur et humilié, que la circoncision du corps était inutile mais qu'il fallait celle du cœur, etc. Dieu, n'ayant pas voulu découvrir ces choses à ce peuple qui en était indigne, et ayant voulu néanmoins les prédire afin qu'elles fussent crues, en avait prédit le temps clairement, et les avait même quelquefois exprimées clairement, mais ordinairement en figure, afin que ceux qui aimaient les choses figurantes s'y arrêtassent, et que ceux qui aimaient les figurées les y vissent. C'est ce qui a fait qu'au temps du Messie, les peuples se sont partagés. Les spirituels l'ont reçu, et les charnels, qui l'ont rejeté, sont demeurés pour lui servir de témoins. Les Juifs charnels n'entendaient ni la grandeur ni l'abaissement du Messie prédit dans leur prophétie. Ils l'ont méconnu dans sa grandeur, comme il est dit que le Messie sera seigneur de David, quoique son fils, qu'il est devant d'Abraham et qu'il l'a vu. Ils ne le croyaient pas si grand qu'il fût de toute éternité, et ils l'ont méconnu de même dans son abaissement et dans sa mort. Le Messie, disait-il, demeure éternellement, et celui-ci dit qu'il mourra. Ils ne le croyaient donc ni mortel ni éternel. Il ne cherchait en lui qu'une grandeur charnelle. Ils ont tant aimé les choses figurantes et les ont si uniquement attendues qu'ils ont méconnu la réalité quand elle est venue dans le temps et en la manière prédite. Ceux qui ont peine à croire en cherchent un sujet en ce que les Juifs ne croient pas. Si cela était si clair, dit-on, pourquoi ne croyaient-ils pas? Mais c'est leur refus même qui est le fondement de notre créance. Nous y serions bien moins disposés s'ils étaient des nôtres. Nous aurions alors un bien plus ample prétexte d'incrédulité et de défiance. Cela est admirable de voir les Juifs, grands amateurs des choses prédites et grands ennemis de l'accomplissement, et que cette aversion même ait été prédite. Il fallait que pour donner foi au Messie, il y eut des prophéties précédentes et qu'elles fussent portées par des gens non suspects, et d'une diligence, d'une fidélité et d'un zèle extraordinaire et connu de toute la terre. Pour faire réussir tout cela, Dieu a choisi ce peuple charnel auquel il a mis en dépôt les prophéties qui prédisent le Messie comme libérateur et dispensateur des biens charnels que ce peuple aimait. Et ainsi, il a eu une ardeur extraordinaire pour ses prophètes et a porté à la vue de tout le monde ces livres où le Messie est prédit, assurant toutes les nations qu'il devait venir, et en la manière prédite dans leurs livres qu'ils tenaient ouverts à tout le monde. Mais, étant déçus par l'avènement ignominieux et pauvre du Messie, ils ont été ses plus grands ennemis. De sorte que voilà le peuple du monde le moins suspect de nous favoriser, qui fait pour nous, et qui par le zèle qu'il a pour sa loi et pour ses prophètes, porte et conserve avec une exactitude incorruptible, et sa condamnation, et nos preuves. Ceux qui ont rejeté et crucifié Jésus-Christ, qui leur a été en scandale, sont ceux qui portent les livres qui témoignent de lui, et qui disent qu'il sera rejeté et en scandale. Ainsi, ils ont marqué que c'était lui en le refusant, et il a été également prouvé, et par les Juifs justes qui l'ont reçu, et par les injustes qui l'ont rejeté, l'un et l'autre ayant été prédits. C'est pour cela que les prophéties ont un sens caché. Le spirituel dont ce peuple était ennemi sous le charnel qu'il aimait. Si le sens spirituel eût été découvert, il n'était pas capable de l'aimer. Et ne pouvant le porter, ils n'eussent pas eu le zèle pour la conservation de leurs livres et de leurs cérémonies. Et s'ils avaient aimé ces promesses spirituelles et qu'ils les eussent conservées incorrompues jusqu'au Messie, leur témoignage n'eût pas eu de force puisqu'ils en eussent été amis. Voilà pourquoi il était bon que le sens spirituel fût couvert. Mais d'un autre côté, si ce sens eût été tellement caché qu'il n'eût point du tout paru, il n'eût pu servir de preuve au Messie. Qu'a-t-il donc été fait? Ce sens a été couvert sous le temporel dans la foule des passages et a été découvert clairement en quelques-uns. Outre que le temps et l'état du monde ont été prédits si clairement que le soleil n'est pas plus clair. Et ce sens spirituel est si clairement expliqué en quelques endroits qu'il fallait un aveuglement pareil à celui que la chair jette dans l'esprit quand il lui est assujetti pour ne le pas reconnaître. Voilà donc quelle a été la conduite de Dieu. Ce sens spirituel est couvert d'un autre en une infinité d'endroits et découvert en quelques-uns, rarement à la vérité, mais en telle sorte néanmoins que les lieux où il est caché sont équivoques et peuvent convenir aux deux. Au lieu que les lieux où il est découvert sont univoques et ne peuvent convenir qu'au sens spirituel. De sorte que cela ne pouvait induire en erreur et qu'il n'y avait qu'un peuple aussi charnel que celui-là qui s'y put méprendre. Car quand les biens sont promis en abondance, qui les empêchait d'entendre les véritables biens, sinon leur cupidité, qui déterminait ce sens au bien de la terre. Mais ceux qui n'avaient de bien qu'en Dieu les rapportaient uniquement à Dieu. Car il y a deux principes qui partagent les volontés des hommes, la cupidité et la charité. Ce n'est pas que la cupidité ne puisse demeurer avec la foi et que la charité ne subsiste avec les biens de la terre. Mais la cupidité use de Dieu et jouit du monde. Et la charité, au contraire, use du monde et jouit de Dieu. Or, la dernière fin est ce qui donne le nom aux choses. Tout ce qui nous empêche d'y arriver est appelé ennemi. Ainsi, les créatures, quoique bonnes, sont ennemies des justes quand elles les détournent de Dieu. Et Dieu même est l'ennemi de ceux dont il trouble la convoitise. Ainsi, le mot d'ennemi dépendant de la dernière fin, les justes entendaient par là leurs passions, et les charnels entendaient les Babyloniens. De sorte que c'est ce que dit Isaïe 8:16, Signaligem indiscipulis meis, et que Jésus-Christ sera pierre de scandale. 8:14. Mais bienheureux ceux qui ne seront point scandalisés en lui. Matthieu 1:6. Osée le dit aussi parfaitement. Où est le sage? Et il entendra ce que je dis, car les voies de Dieu sont droites. Les justes y marcheront, mais les méchants y trébucheront. 14:10. Et cependant, ce testament fait de telle sorte qu'en éclairant les uns, il aveugle les autres, marquait en ceux-mêmes qui l'aveuglaient la vérité qui devait être connue des autres. Car les biens visibles qu'il recevait de Dieu étaient si grands et si divins qu'il paraissait bien qu'il avait le pouvoir de leur donner les invisibles et un Messie. Le temps du premier avènement de Jésus-Christ est prédit. Le temps du second ne l'est point, parce que le premier devait être caché. Au lieu que le second doit être éclatant et tellement manifeste que ses ennemis même le reconnaîtront. Mais, comme dans son premier avènement il ne devait venir qu'obscurément, et pour être connu seulement de ceux qui sondraient les Écritures, Dieu avait tellement disposé les choses que tout servait à le faire reconnaître. Les Juifs le prouvaient en le recevant, car ils étaient les dépositaires des prophéties, et ils le prouvaient aussi en ne le recevant point, parce qu'en cela, ils accomplissaient les prophéties. Les Juifs avaient des miracles, des prophéties qu'ils voyaient accomplir, et la doctrine de leur loi était de n'adorer et de n'aimer qu'un Dieu. Elle était aussi perpétuelle. Ainsi, elle avait toutes les marques de la vraie religion. Aussi l'était-elle. Mais il faut distinguer la doctrine des Juifs d'avec la doctrine de la loi des Juifs. Or, la doctrine des Juifs n'était pas vraie, quoiqu'elle eût les miracles, les prophéties et la perpétuité, parce qu'elle n'avait pas cet autre point de n'adorer et n'aimer que Dieu. La religion juive doit donc être regardée différemment dans la tradition de leurs saints et dans la tradition du peuple. La morale et la félicité en sont ridicules dans la tradition du peuple, mais elle est incomparable dans celle de leurs saints. Le fondement en est admirable. C'est le plus ancien livre du monde et le plus authentique. Et au lieu que Mahomet, pour faire subsister le sien, a défendu de le lire, Moïse, pour faire subsister le sien, a ordonné à tout le monde de le lire. La religion juive est toute divine dans son autorité, dans sa durée, dans sa perpétuité, dans sa morale, dans sa conduite, dans sa doctrine, dans ses effets, etc. Elle a été formée sur la ressemblance de la vérité du Messie. Et la vérité du Messie a été reconnue par la religion des Juifs qui en était la figure. Parmi les Juifs, la vérité n'était qu'en figure. Dans le ciel, elle est découverte. Dans l'Église, elle est couverte et reconnue par le rapport à la figure. La figure a été faite sur la vérité, et la vérité a été reconnue sur la figure. Qui jugera de la religion des Juifs par les grossiers la connaîtra mal. Elle est visible dans les saints livres et dans la tradition des prophètes, qui ont assez fait voir qu'ils n'entendaient pas la loi à la lettre. Ainsi notre religion est divine dans l'Évangile, les apôtres et la tradition, mais elle est toute défigurée dans ceux qui la traitent mal. Les Juifs étaient de deux sortes. Les uns n'avaient que les affections païennes, les autres avaient les affections chrétiennes. Le Messie, selon les Juifs charnels, doit être un grand prince temporel. Selon les chrétiens charnels, il est venu nous dispenser d'aimer Dieu et nous donner des sacrements qui opèrent tous en nous. Ni l'un ni l'autre n'est la religion chrétienne ni juive. Les vrais juifs et les vrais chrétiens ont reconnu un Messie qui les ferait aimer Dieu et par cet amour triompher de leurs ennemis. Le voile qui est sur les livres de l'Écriture pour les juifs y est aussi pour les mauvais chrétiens et pour tous ceux qui ne se haïssent pas eux-mêmes. Mais qu'on est bien disposé à les entendre et à connaître Jésus-Christ quand on se hait véritablement soi-même. Les Juifs charnels tiennent le milieu entre les chrétiens et les païens. Les païens ne connaissent point Dieu et n'aiment que la terre. Les Juifs connaissent le vrai Dieu et n'aiment que la terre. Les chrétiens connaissent le vrai Dieu et n'aiment point la terre. Les Juifs et les païens aiment les mêmes biens. Les Juifs et les chrétiens connaissent le même Dieu. C'est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Il porte les livres et les aime et ne les entend point. Et tout cela est prédit, car il est dit que les jugements de Dieu leur sont confiés, mais comme un livre scellé. Tandis que les prophètes ont été pour maintenir la loi, le peuple a été négligent. Mais depuis qu'il n'y a plus eu de prophète, le zèle a succédé, ce qui est une providence admirable. Chapitre 11. Moïse. La création du monde commençant à s'éloigner, Dieu a pourvu d'un historien contemporain et a commis tout un peuple pour la garde de ce livre, afin que cette histoire fût la plus authentique du monde et que tous les hommes puissent apprendre une chose si nécessaire à savoir et qu'on ne peut savoir que par là. Moïse était habile homme, cela est clair. Donc, s'il eût eu dessein de tromper, il eût fait en sorte qu'on ne l'eût pu convaincre de tromperie. Il a fait tout le contraire, car s'il eût débité des fables, il n'y eût point eu de juif qui n'en eût pu reconnaître l'imposture. Pourquoi, par exemple, a-t-il fait la vie des premiers hommes si longue et si peu de générations? Il eût pu se cacher dans une multitude de générations, mais il ne le pouvait en si peu, car ce n'est pas le nombre des années, mais la multitude des générations qui rend les choses obscures. La vérité ne s'altère que par le changement des hommes. Et cependant, il met deux choses les plus mémorables qui se soient jamais imaginées, savoir la création et le déluge, si proches qu'on y touche, par le peu qu'il fait de générations. De sorte qu'au temps où il écrivait ces choses, la mémoire en devait encore être toute récente dans l'esprit de tous les Juifs. Sem, qui a vu Lamech, qui a vu Adam, a vu au moins Abraham, et Abraham a vu Jacob, qui a vu ceux qui ont vu Moïse. Donc, le déluge et la création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l'entendent bien. La longueur de la vie des patriarches, au lieu de faire que les histoires passées se perdissent, servait au contraire à les conserver. Car ce qui fait que l'on n'est pas quelquefois assez instruit dans l'histoire de ses ancêtres, c'est qu'on n'a jamais guère vécu avec eux et qu'ils sont morts souvent avant que l'on eût atteint l'âge de raison. Mais lorsque les hommes vivaient si longtemps, les enfants vivaient longtemps avec leur père, et ainsi ils les entretenaient longtemps. Or, de quoi les eussent-ils entretenus, sinon de l'histoire de leurs ancêtres, puisque toute l'histoire était réduite à celle-là, et qu'ils n'avaient ni les sciences, ni les arts, qui occupent une grande partie des discours de la vie. Aussi, l'on voit qu'en ces temps-là, les peuples avaient un soin particulier de conserver leur généalogie. Chapitre 12. Figures. Il y a des figures claires et démonstratives, mais il y en a d'autres qui semblent moins naturelles et qui ne prouvent qu'à ceux qui se sont persuadés d'ailleurs. Ces figures-là seraient semblables à celles de ceux qui fondent des prophéties sur l'Apocalypse qu'ils expliquent à leur fantaisie. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils n'en ont point d'indubitable qui les appuie. Tellement qu'il n'y a rien de si injuste, que quand ils prétendent que les leurs sont aussi bien fondées que quelques-unes des autres, car ils n'en ont pas de démonstrative comme nous en avons. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas égaler et confondre ces choses parce qu'elles semblent être semblables par un bout, étant si différentes par l'autre. Jésus-Christ, figuré par Joseph, bien-aimé de son père, envoyé du père pour voir ses frères, est l'innocent vendu par ses frères 20 deniers, et par là devenu leur seigneur, leur sauveur, et le sauveur des étrangers, et le sauveur du monde, ce qui n'eût point été sans le dessein de le perdre, sans la vente et la réprobation qu'ils en firent. Dans la prison, Joseph innocent entre 2 criminels, Jésus en la croix entre 2 larrons. Joseph prédit le salut à l'un et la mort à l'autre, sur les mêmes apparences. Jésus-Christ sauve l'un et laisse l'autre après les mêmes crimes. Joseph ne fait que prédire. Jésus-Christ fait. Joseph demande à celui qui sera sauvé qu'il se souvienne de lui quand il sera venu en sa gloire. Et celui que Jésus-Christ sauve lui demande qu'il se souvienne de lui quand il sera en son royaume. La synagogue ne périssait point parce qu'elle était la figure de l'Église, mais parce qu'elle n'était que la figure, elle est tombée dans la servitude. La figure a subsisté jusqu'à la vérité, afin que l'Église fût toujours visible, ou dans la peinture qui la promettait, ou dans les faits.